Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prier, nous allons partager la parole de Dieu. Père, je veux te remercier pour ta parole. Parce que tu es le Dieu de la création. Tu es un Dieu qui, à partir, Seigneur, de rien, a amené tous les êtres invisibles et visibles à l'existence. Tout ce qu'on voit a été amené par ta puissance, Seigneur, et a été ordonné par ton intelligence. Père, je te remercie pour cela. Je prie pour que ta parole ce matin nous éclaire. Parce que cette parole est bonne. Elle est merveilleuse. C'est cette parole qui nous apprend qui tu es. Ta grandeur et ta puissance. C'est cette parole, Seigneur, qui nous encourage à voir plus haut, plus loin. À ne pas être limité par nos petites choses de la vie, Seigneur. Mais elle nous donne, Seigneur, l'infinie grandeur de ta puissance. Merci. Dans le nom de Jésus. Ce matin, nous allons parler et nous allons commencer une série sur le monde invisible. Je vais vous montrer un certain nombre de choses que Dieu a faites et qu'est-ce qu'il y a dans le monde invisible. Parce que je me suis aperçu que beaucoup de chrétiens semblent ignorer ce qui se passe dans l'invisible. Et nous allons voir que c'est l'invisible qui contrôle le visible. Ce matin, dans cette première partie, je vais vous montrer ce qu'il y a dans le ciel et qu'est-ce que Dieu a fait. Parce que Dieu a créé toute chose, mais beaucoup de chrétiens ignorent. Ils ignorent l'invisible, ils ne savent pas ce qu'il y a dans le ciel. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, pourtant c'est écrit dans la Bible, un certain nombre de principes divins. Et qu'est-ce qu'il y a dans le ciel et qu'est-ce qui nous attend quand nous irons au ciel? On va commencer par le livre des commencements qui est dans la Genèse, bien sûr, qui est la Genèse, pardon. Et on va lire à partir du verset 1. Comment en fait les choses que nous voyons sont venues et comment les mondes, je dis bien les mondes au pluriel, ont été créés. Parce que cela va nous montrer la grandeur et la puissance de Dieu. Et aussi, ça va nous amener à réfléchir sur certaines choses. Vous savez, votre foi peut être inspirée quand vous méditez sur la grandeur de Dieu. Très souvent, les chrétiens sont empêtrés, embourbés dans leurs problèmes de tous les jours. Et ils ont du mal à comprendre la grandeur et la puissance de Dieu. Parce qu'ils ramènent la puissance et la grandeur de Dieu à quoi ? À leurs petits problèmes de tous les jours. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a un certain nombre de choses que nous pouvons apprendre de ce verset, mais nous allons le compléter directement par d'autres versets. Et puis nous nous intéresserons au ciel de Dieu, au trône de Dieu, et nous découvrirons des visions de l'Ancien Testament et des visions du Nouveau Testament. Nous allons faire des comparaisons. Nous allons regarder ce que l'Écriture dit afin de comprendre et afin de connaître. Vous savez, c'est bien de dire « je vais au ciel », mais encore faut-il savoir qu'est-ce qui t'attend au ciel.
Il
nous attend des choses extraordinaires au ciel.
Et
vous savez, si vous voulez vivre sur cette terre vraiment à la gloire de Dieu,
il
y a une chose que vous devez toujours faire. Avoir la tête dans le ciel et les pieds sur la terre. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Je veux dire avoir conscience de votre éternité régulièrement. Et qu'est-ce que la gloire qui vous attend? Mais tout en étant très pratique sur cette terre. Parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu nous demande et Dieu veut qu'on fasse sur cette terre. Et nous avons un rôle à jouer qui est très important. Que tu ne pourras pas jouer si tu n'as pas de révélation sur le monde invisible. Dans cette première partie, nous allons parler du ciel de Dieu. Ensuite, nous parlerons aussi des autres cieux. Et nous verrons le combat spirituel qu'il y a sur la terre. Et nous parlerons du combat spirituel. Pas n'importe comment, comme beaucoup font malheureusement. Mais je vais vous montrer devant quel combat quel combat vous devez mener régulièrement. Et nous expliquerons pourquoi. Jérémie 10, verset 12, nous dit la chose suivante. J'aime beaucoup ce verset. Jérémie va dire deux fois cela dans son livre. Il va dire, il a créé, donc Dieu a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. Ça, c'est notre Dieu. Tout ce qu'il y a partout, de l'invisible au visible, ça a été fait parce qu'il l'a fait par sa puissance, par sa sagesse, par son intelligence. Parce qu'il est Dieu. La Bible nous dit clairement qu'au départ, il n'y avait rien. C'est difficile pour nous de nous imaginer qu'il
n'y
avait rien. C'est là où tous les scientifiques butent. Ils n'arrivent pas à trouver la solution. Ils expliquent certaines choses sur le monde visible. Ils disent, voilà, il y avait une masse, une grosse masse, beaucoup de matière, et d'un seul coup ça a fait ça a explosé et l'univers s'est mis en forme. Oui, d'accord, mais la matière venait d'où? C'est comme l'histoire de la poule et de l'œuf. La poule va naître à partir de l'œuf. Et pour qu'il y ait un œuf, il faut une poule. Et pour qu'il y ait une poule, il faut un œuf. Et pour qu'il y ait un œuf, il faut une poule. Alors remontons les générations précédentes de poules et d'œufs. Oui, mais au départ, il y a bien eu quelque chose. Oui, au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Moi, j'aime bien regarder les émissions scientifiques. Ça me plaît trop. Il y a une chaîne de télé qui s'appelle Encyclopédia qu'on reçoit ici. Alors, ils passent tout le temps des émissions de science et j'aime bien regarder ça. Ce sont des païens. Ils sont scientifiques. docteur machin, docteur truc, docteur bidule.
Et
ils tournent toujours autour des mêmes histoires. Ils essayent de vous prouver qu'on descend du singe.
Et
peut-être que le singe descend de l'arbre. Ils essayent absolument tout le temps de vous prouver qu'il y avait un petit truc qui est devenu un truc moyen, qui est devenu un plus gros truc, et au bout d'un moment, un grand, grand truc. En ce moment, ils font beaucoup d'émissions sur l'univers et moi, je souris quand je regarde ça. Des grosses têtes, hein, vraiment des gros docteurs. Physiciens qui sont là en train de vous expliquer des trucs. Certains trucs qu'ils ont tout à fait découverts. Mais ils auraient la réponse à beaucoup de choses. Si seulement ils croyaient en Dieu. Ils pourraient dire au commencement, Dieu. Et puis nous, on va essayer de comprendre maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait?
Ça
serait quand même un peu plus simple. Pour essayer de dire des choses qui sont fausses et qui savent pertinemment qu'elles sont fausses. Parce qu'ils racontent des choses qui sont malheureusement fausses. Nous avons la réponse parce que nous savons qu'au commencement, Dieu va créer des choses. Comment Dieu va créer les choses? Regardez Hébreux 11, verset 3. C'est très simple. Et d'ailleurs, les scientifiques ont découvert il y a moins d'un siècle.
Hébreux
11, verset
3.
Ici, la Bible nous dit la chose suivante. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé, a été créé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, qu'est-ce qui était au départ ? Ça a été l'invisible qui a créé quoi? Le visible. Ça veut dire que tout ce qui a été créé qu'on voit, tout ce qui s'appelle matière, n'est pas apparu au hasard, mais c'est parce que Dieu a parlé. Rappelez-vous tout à l'heure, il est dit que Dieu a créé les choses par sa puissance. Car Dieu est un Dieu de puissance. Quand Dieu a parlé, les êtres invisibles, nous les étudierons. Le monde invisible, nous allons l'étudier. Et le monde visible est venu à l'existence. Mais c'est simple, ça. Il y a un jour, un scientifique qui a découvert quelque chose, il y a un siècle. Parce que certains se posaient la question, comment la matière peut apparaître? Et c'est un scientifique juif qui a découvert ça. Qui s'appelle Albert Einstein. Je ne vais pas vous faire un cours de physique ce matin, mais je vais vous expliquer des choses. Parce que souvent, les chrétiens, j'ai remarqué, quand on leur pose certaines questions sur certaines choses, ils sont là en disant, moi je crois en Jésus. C'est bien que tu croies en Jésus. Mais il y a quand même des réponses qu'on peut donner. Il y a un scientifique, il y a à peu près un siècle, qui lui était croyant en Dieu. En fait, ils étaient deux grosses têtes, entre guillemets.
Et
ils ont remis quasiment toute la physique qu'on appelle classique en question. Toutes les lois de la physique qu'on avait découvertes pendant tous les siècles. Et Einstein a commencé à remettre les principes de la physique qu'on appelle classique en question. Et il a trouvé quelque chose. Il a dit qu'à partir de l'énergie,
énergie,
C'est pas la régie des eaux, hein, d'accord?
Rien à voir.
On pouvait faire de la matière.
Il a
découvert une toute petite équation toute simple.
Il a dit E,
l'énergie,
égale
la
masse
multipliée par la vitesse
de
la lumière au carré. La vitesse de la lumière au carré. C'est une équation grande comme ça. Certains, vous avez fait quelques études en physique, vous connaissez. Les autres, ce n'est pas grave, vous faites semblant de connaître. Juste pour dire quoi? Mais que Hébreu 11 l'avait déclaré il y a des milliers d'années. Que à partir de la puissance de Dieu, de l'invisible de la puissance de Dieu, la matière a été créée. Dieu a parlé et avec sa puissance, il a amené à l'existence les choses. C'est pour ça que Dieu nous dit ça dans sa parole ici. Que l'invisible a créé le visible. Et
ce
n'est pas venu par hasard. Un jour, ces deux grands scientifiques se bagarraient. Ils n'étaient pas d'accord. Et Einstein, qui était croyant, il a dit non. Il y en avait un qui disait tout est venu par hasard. Tout est arrivé et s'est mis en ordre tout seul. Et Einstein a fait cette déclaration. Il n'était pas né de nouveau, Einstein. Mais il a dit la chose suivante. Il a dit non, Dieu n'a pas joué au dé en créant l'univers. C'est-à-dire qu'il n'a pas mis les choses comme ça. Non, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Rappelez-vous ce que nous avons vu dans Jérémie plus tôt. Puissance, sagesse et intelligence. C'est comme ça que Dieu a fait l'univers. Par sa puissance, il a parlé. Donc la matière est venue à l'existence. Mais ce n'était pas un gros truc informe qui restait informe. Il a commencé à créer tout un ordre ici. Il a créé tout un ordre parce que tout est ordonné. Les scientifiques ne cherchent qu'une chose, c'est quoi? C'est finalement les lois que Dieu a mises dans la nature. Donc Dieu crée par sa parole. Il parle et les choses viennent à l'existence. Il est rempli de sagesse et d'intelligence et il met tout en ordre. Colossiens 1, verset 16. Ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas faire un cours de physique, nous allons juste aller un peu plus de l'avant. La Bible nous dit dans Colossiens 1,16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, regardez bien encore, les cieux, pluriel, et sur la terre, les visibles et les invisibles. Donc, Dieu est clair, il y a des choses visibles qui ont été créées, dans les cieux, sur la terre. Et il y a aussi des choses invisibles. Visibles et invisibles. Alors vous avez remarqué que dans les différents versets que nous avons lus, il est dit les cieux. Il est dit les cieux. Il n'est pas dit le ciel. Il est dit les cieux, pluriel. Et qu'est-ce que la Bible veut nous révéler ici? Nous avons la grâce d'avoir la parole de Dieu. En toi habite celui qui a créé toutes choses. Et tu as le trésor de la connaissance, de la sagesse de Dieu ici dans cette parole. La Bible va nous faire une révélation que les scientifiques n'ont pas. Eh bien, elle se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 12. Paul va nous montrer quelque chose.
Paulo aratwereka ikintu kimwe
qui nous donne une précision sur les cieux.
Kidusobanurira ibijanye n'amajuru.
Parce que c'est important de savoir.
Kuko ni byangenerwa gutahura.
Ce que ça veut dire, tu dis je vais aller au ciel. Gloire à Dieu.
Uravuga uti ndiko nja mu ijuru. Imana ishimwe
cyane. Mais ça veut dire quoi aller au ciel?
None bisobanura iki kuja mu ijuru?
Et qu'est-ce qu'il y a dans le ciel?
Bien mu ijuru hari iki?
C'est ce que nous allons voir d'ailleurs.
Nivyo tugira tubandanye twiga.
C'est l'objet de ces enseignements.
Nico
pour que vous puissiez apprendre, connaître ce que la parole de Dieu vous révèle. Paul va nous parler d'une expérience qu'il va faire, qu'il a faite finalement. Et en fait, dans cette expérience qu'il a faite, il a été ce qu'on appelle ravi en esprit. Alors je vais vous l'expliquer, c'est une vision
où
une personne surnaturellement avec la puissance de Dieu. Satan n'a pas du tout la puissance de faire ça, il n'y a que Dieu qui a la puissance de faire ça. L'esprit et l'âme de la personne vont sortir de son corps et la personne va aller au
ciel.
C'est ce que Paul va nous décrire ici. Et il va aller auprès du trône de Dieu. Il va voir le paradis, parce que nous allons en parler. Et c'est la même expérience que Jean a faite dans l'Apocalypse. Si vous lisez l'Apocalypse, vous allez voir que Jean a été ravi en esprit. Cette expérience d'être ravi en esprit, c'est la puissance de Dieu qui peut faire ça seulement. Et amener quelqu'un au ciel. Au ciel. Au ciel. Au ciel. Oui, au ciel. Nous allons lire.
Parce
qu'il faut qu'on comprenne ce que ça veut dire. Parce que quand vous dites au ciel, il va falloir savoir de quoi vous parlez. La Bible, c'est Paul qui parle ici parce qu'il était accusé par des gens malfaisants. Il dit, il faut se glorifier, cela n'est pas bon, j'en viendrai néanmoins à des visions et des révélations du Seigneur. Il parle de vision et de révélation. Je connais un homme en Christ, bien sûr c'est lui dont il parle, en Christ, qui est né de nouveau, et c'est lui dont il parle, voici il y a 14 ans. Était-ce dans son corps, je ne sais, était-ce hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut ravi jusqu'au troisième ciel. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables, qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas selon de mes faiblesses. Donc on peut lire le verset 2, s'il vous plaît, et le verset 4. Merci.
Mungu wakabiri, abikono wakabiri, chumina kabiri. Gondanzu munu wa muli Kristo, yaduga nwa kajanwa mnijuru, ya agatatu, uwa hashizimi yaka chuminine. Namba yare mumubiri, simbizi. Change namba tare mumubiri, simbizi, bizimana. Kandi nzi yuko mezatyo namba yari mu mubiri canke namba tari mu mubiri simbizi bizimana yaduganwe akajanwa muri paradizo akumva ibitovugwa ivyo umuntu atemererwa kuvuga.
Donc Paul ici nous parle d'une expérience qu'il va faire.
A Paul aratubwira ikintu yabayemwo.
Il dit qu'il va aller dans le paradis.
Ngo agenda mu paradizo.
Et il nous parle du troisième ciel.
Akatubwira ngo ijuru rya gatatu.
Ah, ceci correspond bien à ce qu'on a lu jusqu'à présent.
Ibi birahuye neza n'ibintu twamaze gusoma gushika ha.
Dieu, au commencement, créa les cieux et la terre. Les cieux et la terre. Il n'est pas dit les cieux et les terres. Il est dit les cieux et la terre. Et il est clair que la Bible nous révèle qu'il y a trois cieux. Et ça, c'est important à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire, ces trois cieux? En général, les théologiens, les bons théologiens, différencient les cieux de cette façon-là. Le premier ciel, c'est l'atmosphère terrestre, là où la vie biologique est possible. Là où tu peux vivre et respirer. Là où la vie est réelle. Vous savez qu'ils ont envoyé des fusées dans toutes les planètes, enfin plusieurs planètes, ils essayent en tout cas. Et à chaque fois, vous regardez sur Internet, on va vous dire, ah, on a trouvé de l'eau sur Mars.
Ah,
on a trouvé de l'eau dans tel endroit. Parce qu'ils savent que l'eau amène la vie. C'est l'élément indispensable pour la vie biologique. Je me souviens dans les années 70, on faisait toujours de la spéculation avant qu'on puisse aller sur la Lune. Même les livres les plus scientifiques étaient très sérieux là-dessus. Ils espéraient trouver des habitants de la Lune. Et quand ils sont arrivés sur la Lune, ils ont trouvé de la poussière, et encore de la poussière, et en plus de la poussière. Après, ils ont voulu aller sur Mars, ils ont envoyé des petits trucs, là, des sondes spatiales sur Mars.
Et
c'est la même chose. Parce que là où il y a de l'eau, là où il y a une atmosphère pour la vie biologique, c'est sur cette terre. Dieu a mis l'objet de toute son attention sur la terre. Les planètes, c'est pour faire joli. Les étoiles, c'est pour faire joli. Et c'est pour montrer la puissance de Dieu. Et ça agace les scientifiques. Et moi, ça me fait rire. Vous savez pas pourquoi ça me fait rire? Parce que tant qu'ils ne voudront pas admettre l'existence de Dieu, ils ne comprendront pas le but des choses. Alors ils ont envoyé ce qu'on appelle les télescopes pour observer, pour faire des images de l'univers. Et quand on voit les photos, c'est absolument merveilleux. C'est magnifique. Il y a un télescope qu'on appelle Hubble qu'ils ont envoyé. Ils font des photos assez magnifiques. Mais plutôt que de dire « Ah, quel grand Dieu a créé ces choses !» Ils sont en train de se disputer pour savoir comment c'est, pourquoi, comment... Non, Dieu a mis tout cela, pourquoi? Pour que la nuit, tu puisses regarder et dire, « Oh, Seigneur, combien tu es grand !» Combien tu es extraordinaire. Moi, quand je regarde ces reportages-là, je dis, Seigneur, c'est vraiment extraordinaire. Vous savez quoi? Quand vous regardez les étoiles, la nuit, qui aime bien regarder les étoiles la nuit? Je vais vous dire une chose. Les étoiles, c'est une jolie boule de gaz pour faire joli. Mais sachez une chose, ce que tu vois là, ça fait longtemps que ça n'existe plus. Parce que c'est tellement loin. C'est tellement, tellement loin. C'est à des milliards de milliards de kilomètres. Que le temps, que ce que tu vois là, ça n'existe plus parce que l'étoile, elle est déjà consumée. Mais toi, tu vois l'étoile avec des millions d'années de retard parce qu'il y a des millions d'années, le temps qu'elle a éclairé ici et que la lumière te parvienne, il y a eu des millions d'années. Pourquoi? Parce que la lumière, la vitesse de la lumière, elle est limitée. Et quand c'est très 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 loin, ça met du temps à te parvenir. Et là, ça a mis des millions d'années à cette lumière à nous parvenir sur la Terre. C'est pour ça qu'ils ont du mal à comprendre. Il y a tellement de choses qui n'existent plus, mais comme on reçoit la lumière maintenant, on dit « Ah, c'est comme ça ». Mais non, c'est pas comme ça. C'était comme ça il y a des millions d'années. Le premier ciel, c'est tout ce qui nous entoure ici. Le deuxième ciel, c'est là où il y a toutes les planètes et les étoiles. Mais c'est grand comment tout ça? Est-ce qu'on peut mesurer avec notre maître de charpentier?
Où
est-ce que ça s'arrête? Ça, c'est un grand mystère.
Je
ne vais pas aller trop loin, mais j'ai des idées. J'ai des idées personnelles, mais je ne veux pas aller trop loin parce que sinon ça sera trop compliqué. Mais je sais que Dieu a mis une limite à l'univers. L'univers visible. Et quand ils regardent avec leurs grands observatoires, leurs grands télescopes, ils essayent toujours de regarder plus loin, de plus loin, de plus loin. Et ils s'aperçoivent qu'il y a quelque chose qui limite. Et ils ont appelé ça des trous noirs. Tout ce qui a l'air de rentrer dans ce trou noir disparaît. Il semblerait que Dieu ait limité cet espace. Mais c'est tellement grand qu'on a du mal à se faire une image de l'univers. Parce que comme je vous le disais, plus vous voyez des choses de loin, plus ce n'est pas la réalité d'aujourd'hui. C'était la réalité d'il y a des millions d'années. Et ça s'est étendu comme ça par la puissance de Dieu. Mais est-ce que ça s'est arrêté quelque part? C'est le grand mystère que les scientifiques n'arrivent pas à percer et qu'ils ne perceront jamais. Il y a des réponses. Mais nous savons que Dieu a limité les choses. Donc, tout cet univers que tu vois quand tu lèves, quand tu regardes le soleil, quand la nuit tu regardes la lune, tu regardes toutes les étoiles, c'est tellement, tellement éloigné que la plupart de ces choses n'existent même plus dans le ciel. On essaye de les observer et on observe beaucoup de choses, mais ils ont du mal à mettre des conclusions. Maintenant, Paul ici ne parle pas du premier ciel ou du deuxième ciel où il aurait été. Il va nous parler du troisième ciel. Et ce troisième ciel, il nous donne quelques précisions. Il nous parle du paradis. Et c'est là où on va commencer à découvrir un certain nombre de choses à propos de Dieu. Et à propos de là où Dieu demeure. Et pour cela, nous, nous avons la parole de Dieu. Et nous avons un certain nombre de visions que des prophètes ont reçus dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Ce qui va nous permettre de comprendre mieux ce qu'est ce troisième ciel. Parce que le troisième ciel, c'est là où Dieu habite. Ce n'est pas un ciel physique. C'est un ciel spirituel. Rappelez-vous d'une chose. Au commencement, Dieu est. Il est là, dans un passé éternel. Et le temps avec Dieu, ce n'est pas la même chose qu'avec nous. C'est Dieu qui nous a limités dans le temps et dans l'espace. Dieu est dans une autre dimension. Et nous a limités pour que nous puissions évoluer et le connaître. Quelle grâce de pouvoir connaître le Dieu de l'infini. Celui qui a parlé et qui a fait des choses que l'homme n'arrive même pas à comprendre. Et qui soit venu habiter dans notre cœur. Et que nous allons être avec lui pour l'éternité. Le ciel, qu'est-ce que le ciel? Le troisième ciel. Lorsque tu vas mourir, tu vas aller au ciel. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Qu'est-ce que la Bible nous révèle à propos de cela? Est-ce que la Bible a beaucoup de choses à dire ou peu de choses à dire? Eh bien, la Bible a beaucoup de choses à dire. Il y a plusieurs visions qui sont très marquantes dans l'Ancien Testament. Et la première que nous allons voir, c'est Ézéchiel. Au chapitre 1, Ézéchiel va nous donner une vision. Puis nous verrons aussi une autre vision d'Ézéchiel. Nous parlerons aussi d'Ésaïe qui a reçu une vision. Et là, on va nous parler d'un trône. Et on va nous parler aussi d'êtres invisibles qui sont autour de ce trône. Et nous allons découvrir le nom de ces êtres invisibles. Parce que ces êtres-là, vous allez les voir. Le jour où vous allez aller au ciel, vous allez dire, mais je ne savais pas qu'il y avait tout ça. Et Jésus te dira, mais tu n'as jamais lu ma parole. Parce que dans la parole de Dieu, il y a un certain nombre de choses. Puis nous ferons des comparaisons entre les visions de l'Ancien Testament et les visions du Nouveau Testament. Je vais lire ici en français, au verset 1, la 30e année, le 5 du 4e mois, comme j'étais parmi les déportés près du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5 du mois, c'était la 5e année de la déportation du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Alors, la main de l'Éternel, c'est l'onction de Dieu qui est descendue sur le prophète. Je regardais, voici qu'il vint du nord un vent de tempête, une grosse nuée. La nuée, c'est quoi? C'est pas un nuage. La nuée, là, c'est la gloire de Dieu, c'est un symbole de l'onction, le vent aussi, symbole du Saint-Esprit. Et une gerbe de feu, symbole du Saint-Esprit aussi, qui répandait tout autour une clarté. Il y avait comme un éclat étincelant sortant du milieu d'elle, du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient quatre animaux. Regardez bien cette expression. Elle va nous être expliquée un peu plus tard dans une autre vision. Dont l'aspect avait une apparence humaine. Chacun d'eux avait quatre faces. Et chacun avec quatre ailes. Donc on remarque que ces animaux, entre guillemets, ils nomment ça comme étant des animaux, ont quatre faces, donc quatre visages, et ils ont aussi quoi? Ils ont des ailes, quatre ailes. Leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient de l'éclat du bronze poli. Ils avaient des mains humaines sous les ailes, à leurs quatre côtés, et tous les quatre avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et ils ne se détournaient pas en avançant, mais chacun avançait droit devant soi. Quant à l'apparence de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous une face de lion à droite, tous une face de bœuf à gauche, et tous une face d'aigle. Leur face et leurs ailes, donc leur visage et leurs ailes, étaient séparés par le haut. Chacun avait deux ailes jointes l'une à l'autre, et deux qui lui couvraient le corps. Chacun avançait droit devant soi. Ils avançaient dans le sens où avançait le vent, et ne se détournaient pas en avançant. L'apparence de ces animaux avait l'aspect de charbon ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux. Le feu répandait une clarté, et du feu sortaient des éclairs. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Je regardais ces animaux, et voici qu'il y avait une roue à terre, à côté des animaux, devant leurs quatre faces. L'aspect et la structure de ces roues avaient l'éclat de la chrysolite. Et tous les quatre avaient la même apparence. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Quand elles avançaient de leurs quatre côtés et ne se détournaient pas en avançant. Leurs jantes d'une dimension formidable, leurs jantes à tous les quatre étaient remplies d'yeux tout autour. Quand les animaux avançaient, quand les roues avançaient à côté d'eux et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Ils avançaient dans le sens où avançait le vent, dans le sens du vent, et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils avançaient, elles avançaient. Quand elles s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de la terre, les roues s'élevaient avec eux, car les esprits des animaux étaient dans les roues. Au-dessus des têtes de chaque animal apparaissait une étendue céleste qui avait l'éclat d'un formidable glacier et qui s'étendait au-dessus de leur tête. Sous cette étendue, leurs ailes étaient droites, l'une contre l'autre, et ils en avaient chacun deux qui les couvraient, chacun d'eux qui couvraient leur corps. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils avançaient pareil au bruit de grosses eaux, et la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Une voix parvenait de l'étendue qui se trouvait sur leurs ailes. Lorsqu'ils s'arrêtaient, ils laissaient retomber leurs ailes. Tout au-dessus de l'étendue qui était sur leur tête, il y avait quelque chose qui avait l'aspect d'un saphir et l'apparence d'un trône. Et par-dessus cette sorte de trône apparaissait une forme humaine, Je vis encore comme un éclat étincelant, ayant l'aspect du feu et qui rayonnait tout autour, depuis ce qui semblait être ses reins jusqu'en haut, depuis ce qui semblait être ses reins jusqu'en bas. Je vis comme du feu et une clarté autour de lui, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue, c'est-à-dire l'arc-en-ciel, un jour de pluie. Tel était l'aspect de la clarté qui l'entourait. C'était une apparition de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais face contre terre et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. Ici, nous avons une vision de l'Ancien Testament. Le prophète Ézéchiel va voir quelque chose. En gros, il voit le trône de Dieu. Il voit une partie de Dieu. Et il voit ce qu'il appelle les animaux. Et il décrit ces créatures invisibles que lui va voir surnaturellement dans une vision, bien sûr. Et bien évidemment, nous allons découvrir que ces créatures qu'il décrit ici, qui quand il en donne la description, il faut dire, c'est pas évident.
Et
il nous parle des ailes, il nous parle en dessous des ailes, il y a des mains.
Et
il nous parle de roues en dessous qui ont des yeux partout.
Il nous
parle de quatre faces, quatre visages. Et pour nous, ça peut paraître surprenant, tout ça. On se dit, waouh, qu'est-ce qu'il veut décrire ici? Ces quatre animaux, entre guillemets, comme il les appelle, vont porter le trône. Et quand il voit le Seigneur, la puissance de Dieu lui tombe dessus. Tellement il y a la gloire de Dieu. Mais pour nous, ça peut être un peu effrayant. On dit, waouh! Qu'est-ce que c'est que cela? Est-ce qu'on va retrouver cela dans d'autres passages de l'Écriture? Est-ce que c'est juste une vision comme ça, une représentation de quelque chose, ou est-ce que c'est une réalité céleste?
Et bien,
nous allons voir d'autres visions qui vont nous montrer un peu les mêmes choses. Et puis petit à petit, nous allons découvrir ce que sont ces êtres célestes. Parce que Dieu a créé des êtres célestes. Et il a créé différentes catégories d'êtres célestes. Alors, on va voir dans le chapitre 10 d'Ézéchiel. Ézéchiel va recevoir une deuxième vision. Et dans sa deuxième vision, il va voir encore ces créatures. Et là, il va mettre un nom dessus. Ce qui nous permet de mieux comprendre. Et puis, nous irons faire aussi un tour dans le Nouveau Testament, bien sûr. Et il est dit au verset 1 du chapitre 10 d'Ézéchiel, je regardais et voici que vers l'étendue, c'est-à-dire vers l'étendue céleste, c'est-à-dire vers le ciel, qui était au-dessus de la tête des chérubins, il y avait comme un saphir. On voyait au-dessus d'eux quelque chose qui avait l'aspect d'une sorte de trône. Tiens, on retrouve un peu les mêmes caractéristiques que dans la première vision. Et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, c'est-à-dire à un ange, entre à l'intérieur du tourbillon sous les chérubins. Remplis tes mains de charbon ardent que tu prendras entre les chérubins et répands-les sur la ville. Et il alla sous mes yeux. Les chérubins se tenaient à la droite de la maison quand l'homme arriva et la nuée remplit le parvis intérieur. Là, il a une vision du temple et de la gloire du temple. La gloire de l'Éternel monta de dessus le chérubin sur le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée. La nuée, c'est l'onction. Et le parvis fut rempli de la clarté de la gloire de l'Éternel. Le bruit des ailes des chérubins, tiens, on revoit ici, des ailes des chérubins, se fit entendre jusqu'au parvis extérieur, pareil à la voix du Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. Ainsi l'Éternel donna cet ordre à l'homme vêtu de lin, prend du feu à l'intérieur du tourbillon, entre les chérubins, et cet homme alla se placer près de la roue. Alors le chérubin étendit la main entre les chérubins vers le feu qui était entre les chérubins. Il en prit et le mit dans les mains de celui qui était vêtu de lin, et il le prit et sortit. On voyait au chérubin une forme de main humaine sous leurs ailes. Et au verset 20, il va dire la chose suivante, qui nous montre que c'est la même vision. Vous pourrez lire la suite si vous voulez. On va lire un petit peu la suite aussi. effectivement, ça va nous aider encore. Je regardais verset 9 et voici qu'il y avait quatre roues près des chérubins. Une roue près de chaque chérubin et ces roues avaient l'éclat d'une pierre de chrysolite. Par leur aspect, tous les quatre avaient la même apparence. Chaque roue paraissait être au milieu l'une de l'autre. Et puis il va expliquer comment elles avançaient strictement comme dans la vision du chapitre 1. Chacun avait quatre faces. Verset 14. Les faces du premier étaient les faces de chérubins. Les faces du second, les faces d'hommes. Pour le troisième, les faces de lion. Et pour le quatrième, les faces d'aigle. Faces d'aigle. Regardez bien le verset 20. On va sauter au verset 20. C'était, regardez bien ce qu'il dit ici. Il a appelé ça des chérubins au chapitre 10. Et il dit, verset 20, c'était les animaux que j'avais vus sous le Dieu d'Israël, près du fleuve du Kébar. Et je reconnus que c'était des chérubins. Donc en fait, au chapitre 1 et chapitre 10, Ézéchiel voit les mêmes choses. Donc, ces animaux, entre guillemets, qu'il va décrire, ne sont pas des animaux, mais des créatures angéliques de très haut rang. En fait, les chérubins sont les créatures angéliques de plus haut rang. Il n'y a pas de plus haut
qu'eux.
La Bible nous parle que Dieu a créé l'armée des anges. Et dans une armée, il y a toujours un ordre. Il y a toujours des grades, entre guillemets. Et quand on étudie la Bible, on s'aperçoit qu'il y a quatre types de créatures angéliques. Il y a les chérubins, dont nous avons une description assez précise ici. Il y a les séraphins, dont nous allons voir une seule mention dans la Bible, dans Ésaïe chapitre 6. Puis, il y a les archanges, qui sont les chefs des anges. Et il y a les anges. Ce sont les quatre types de créatures angéliques que Dieu a créées. Les chérubins sembleraient être particulièrement les gardiens du trône de Dieu. Les séraphins apparemment tournent autour du trône. Regardons ensemble dans Ésaïe chapitre 6. C'est important que vous sachiez ce qu'il y a dans le monde invisible. Parce que si vous ne savez pas, eh bien, vous êtes ignorant la parole de Dieu. Et ces chérubins, ces séraphins, ces archanges et ces anges, vous allez les voir le jour où vous allez aller au ciel. Et vous direz, ah, je me souviens, le jour, ce dimanche, on avait lu Ézéchiel, mais j'étais un peu fatigué.
Ah.
Et quand tu vas les voir, waouh, c'est des créatures angéliques. Tellement puissante. Il n'y a que quelques hommes de Dieu dont je lis les visions réellement. Des gens qui ont écrit dans des livres certaines visions qu'ils ont reçues. Et je me souviens d'un témoignage, d'un réel témoignage.
Que
vous savez, quand quelqu'un vous dit qu'il a eu une vision et qu'il écrit quelque chose, vous avez plutôt intérêt à savoir si ça vient vraiment du Seigneur ou pas.
Et
je me souviens particulièrement d'un prédicateur qui vraiment est un très très bon prédicateur, qui a une renommée internationale, qui a reçu une vision du ciel. Et là, il était au ciel, comme Paul. Comme Jean, l'apôtre Jean aussi, dont nous allons étudier les visions. Et il racontait que quand il est arrivé au ciel, et qu'il s'est approché du trône de Dieu, il y avait ces immenses créatures qu'il a décrit strictement identiquement que ce que nous voyons ici dans
Ézéchiel.
Et que nous allons voir aussi dans l'Apocalypse. Et il
disait,
il faisait un bruit gigantesque. Et plus on s'approchait du trône, plus il y avait une présence de Dieu extraordinaire. Et on avait du mal à se tenir debout. Et on était dans la révérence. Tellement il y avait de puissance et de gloire et de sainteté. Mais lui-même a dit, j'ai vu ces chérubins. Maintenant la Bible va nous donner un autre type de créature angélique.
Ésaïe
chapitre 6, verset 1. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Toute la terre est remplie de sa gloire. Les soubassements des seuils frémirent à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée, c'est-à-dire de la gloire de Dieu.
Abaserafi ngo bari bahagaze hejuru yiwe. Umuserafi wese yarafise amababa atandatu, abiri yitwikiriza mu maso yandi, abiri yitwikiriza ibirenge yandi, abiri yarayagurukisha, babarirana basemerera bati weru weru wera, ni wuhoraho nyene ingabo, isi yose yuzuye icubahiro ciwe.
Je crois qu'il y a un chant kirundi qui dit ça.
Hari ndirimbo weru weru wera turayizi.
C'est très connu. Et en fait, on voit ici un autre type de créature angélique. Donc les chérubins, on voit qu'ils soutiennent le trône et protègent le trône. Les séraphins, il semblerait qu'ils volent autour du trône. Ce sont des créatures angéliques de très haut rang aussi. Et ce sont seulement les deux types de créatures angéliques qui ont des ailes. La Bible ne dit pas que ni les archanges ni les anges ont des ailes. Donc si tu as vu un ange avec des ailes un jour, c'est que certainement tu as mangé une mauvaise pizza au restaurant le soir d'avant. À chaque fois que des anges vont apparaître ou des archanges, c'est toujours avec une forme humaine sans
ailes.
Jamais vous ne verrez dans la Bible un ange qui apparaît avec des petites ailes d'oiseau comme on les peint si souvent. Je ne sais pas d'où ça vient ces histoires, mais pratiquement dans le monde entier, dans les trucs religieux, on voit que les anges ont des ailes. Je suis désolé, les anges n'ont pas d'ailes. Il n'y a que les séraphins et les chérubins qui ont des ailes. La Bible est très claire là-dessus. Ça, je tiens à vous le dire, parce que vous savez, les chrétiens ont toujours des idées bizarre dans leur tête. Je
ne
sais pas pourquoi. L'important, c'est vraiment de faire les choses selon la parole de Dieu. Alors maintenant, nous allons commencer, nous ne pourrons pas terminer aujourd'hui, mais nous allons commencer à avoir une vision du Nouveau Testament que Jean a reçu. Parce que vous savez, vous ne pouvez pas construire des doctrines avec juste un texte. Si vous voulez construire un enseignement, il faut plusieurs textes bibliques, il faut les interpréter correctement. Jean dans l'Apocalypse va faire une succession d'expériences au niveau des visions. D'abord, il va voir Jésus. Au chapitre 1, Jésus va lui apparaître dans la gloire. Et Jean est rempli de la puissance de Dieu, il tombe sous la puissance de Dieu. Ensuite, Jésus va lui transmettre, au chapitre 2, vous trouverez ça, et chapitre 3. un message aux sept églises. Vous savez, l'Apocalypse, ce n'est pas très compliqué à comprendre, mais il faut avoir des notions sur le monde spirituel. Parce que j'entends beaucoup de bêtises et de commentaires, et malheureusement de beaucoup de prédicateurs, sur des choses de l'Apocalypse, et c'est mal interprété très souvent. Parce que souvent les gens n'ont pas les notions suffisantes et n'ont pas la compréhension du monde spirituel. Donc c'est important de correctement interpréter la parole de Dieu. Et en fait, ici, nous allons découvrir dans l'Apocalypse 4, chapitre 4, Jean va avoir une deuxième vision. Donc il a la première vision, Jésus lui apparaît, chapitre 1, où d'un seul coup, c'est ce qu'on appelle une vision ouverte, c'est-à-dire le monde naturel disparaît devant lui et il se retrouve avec Jésus face à face. Parce qu'il y a trois types de visions. Il y a des visions spirituelles qu'on reçoit dans notre esprit. Tu es là, tu es dans la prière et d'un seul coup dans ton esprit c'est comme une télévision, tu as une vision.
Moi ça ne
m'est arrivé qu'une fois ou deux en 30 ans. Il y a des gens qui ont des visions tous les jours. Il rajoute un peu de pili-pili et beaucoup de sel. Alors, le deuxième type de vision, c'est quoi? Ce sont les visions ouvertes. Tu es là et un ange t'apparaît ou Jésus t'apparaît. Troisième type de vision, c'est être ravi en esprit. Ce que Paul a vécu et ce que Jean va vivre à partir du chapitre 4. Où là, Dieu l'envoie dans le monde spirituel du troisième ciel. Et c'est ce que Jean va vivre à partir du chapitre 4. La même expérience que Paul dans 2 Corinthiens chapitre 12 que nous avons lu tout à l'heure. Et il est dit ici, après cela je regardais verset 1 chapitre 4, une porte ouverte dans le ciel, telle une trompette. La première voix que j'avais entendue me parler dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, même expression que nous avons vue tout à l'heure, dans 2 Corinthiens chapitre 12. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, où ça dans le ciel, dans le troisième ciel. Et sur ce trône, quelqu'un y était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Le trône était environné d'un arc-en-ciel, exactement pareil que dans Ézéchiel chapitre 1, un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude. Autour du trône, il y avait 24 trônes. Ah, ça c'est nouveau. Autour du trône, il y avait 24 trônes. Nous en discuterons un peu plus tard dans les prochaines séances. Et sur ces trônes 24 anciens, qui sont-ils? Nous allons en avoir certains éléments de réponse. Assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes. Du trône sortent des éclairs et des voix et des tonnerres, strictement pareil que dans Ézéchiel chapitre 1. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. C'est les sept facettes de l'esprit de Dieu. Devant le trône est comme une mer de verre semblable à du cristal. Même chose qu'Ézéchiel avait vu. Au milieu du trône et tout autour du trône, quatre êtres vivants. Ah, ça nous rappelle quelque chose. Quatre êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Ah, tiens, ça nous rappelle Ézéchiel. Le premier être vivant est semblable à un lion. Tiens donc. Le deuxième semblable à un veau. Le troisième comme un visage d'homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en vol. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes. On retrouve exactement la vision d'Ézéchiel ici. Ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui était et qui vient. Ça nous rappelle les séraphins aussi. Et quand les êtres vivants rendront gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards ou les anciens se prosterneront devant celui qui est assis sur le trône. Ils adoreront celui qui vit au siècle des siècles et jetteront leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. » Donc au chapitre 4, on retrouve.
Si vous
mettez en parallèle Ézéchiel chapitre 1 et Ézéchiel chapitre 10,
vous
retrouvez 1 et 10.
Ézéchiel 1 na Ezekiel 10 ukaraba.
Et on va retrouver à peu près les mêmes choses. C'est normal, Dieu n'a pas changé d'habitation. Il n'a pas déménagé entre-temps. Il reste dans sa gloire, sur son trône glorieux. Il y a les chérubins. Il y a cette mer qui ressemble, entre guillemets, cet espace qui ressemble à une mer de glace. Il y a une sorte d'arc-en-ciel au-dessus du trône. Et il y a beaucoup de bruit dans ce, autour de son trône. Où la gloire et la louange est rendue à Dieu 24 heures sur 24. Mais on ne peut pas trop parler de 24 heures sur 24 parce que dans le ciel, la notion du temps n'est pas la même que sur la terre. Dieu dit dans sa parole qu'un jour c'est comme 1000 ans pour lui et 1000 ans sont comme un jour pour lui. L'espace et le temps, ça a été créé pour nous. On a du mal à s'imaginer ça parce que nous vivons dedans. Et nous avons été créés par rapport à ça. Pour lui, dans l'espace et dans le temps. Mais ce trône a les mêmes caractéristiques que dans l'Ancien Testament, c'est normal. Mais il y a ces 24 vieillards. Et nous verrons aussi que dans le Nouveau Testament, il va y avoir plein de choses en complément. Que dans l'Ancien Testament, ils ne pouvaient voir parce que ça n'existait pas encore. Et je vous montrerai ce que Jésus a fait et nous a préparé. Pour que le jour, quand nous allons partir auprès de lui, et c'est le cas depuis qu'il a contracté la nouvelle alliance, ceux qui lui appartiennent, ceux qui lui appartiennent puissent directement y aller et vivre dans sa présence. Nous allons prier et je vous donnerai la suite la prochaine fois. Père, nous voulons te remercier pour la révélation, Seigneur, du monde invisible de ton troisième ciel. Nous te remercions parce que le troisième ciel est une réalité. C'est là où nous irons dans ta présence. Je te remercie parce que tu nous donnes des révélations dans ta parole. Ce qui nous permet, Seigneur, de pouvoir marcher avec toi, sachant que tu as le meilleur et le plus extraordinaire pour nous. Merci de nous avoir sauvés, Seigneur. Merci d'avoir changé nos vies. Merci parce que nous sommes sur le chemin du ciel. Et toutes ces choses qui sont écrites dans ta parole, Seigneur, nous allons les voir et nous te verrons face à face. Reçois toute la gloire pour cela. Jésus, merci d'être venu nous chercher alors que nous étions des ennemis, et tu as eu compassion de nous et tu nous as aimés, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Soyez bénis, passez un super dimanche et on se revoit donc la semaine prochaine.